L'émission Prière inspirée vous est présentée par EMCI TV. Vivez des moments forts dans la parole et dans la prière avec Jérémy Sourdril.
Bonjour et bienvenue dans Prière inspirée. Je suis à nouveau heureux de vous retrouver. C'est vrai, je suis vraiment heureux de vous retrouver chaque jour et d'être pour vous une bénédiction, de pouvoir aussi prier avec vous et pour vous. C'est vraiment une grâce et une bénédiction, se réjouir dans le Seigneur, de pouvoir être une source de bénédiction pour toute la francophonie et que vous soyez vous aussi une source de bénédiction pour ceux que Dieu a mis autour de vous. Aujourd'hui, on va parler de Caïn, de l'esprit de Caïn face à la communion avec Dieu. Et avant cela, partager un témoignage avec vous comme j'ai l'habitude de le faire. C'est Maya qui nous écrit, elle nous a déjà envoyé plus d'un témoignage déjà. Elle dit lors de la série sur la prière à travers la Bible, vous nous avez partagé qu'on pouvait lire la Bible en un an et aussi en moins de temps si on lui consacrait plus de temps. Le Seigneur m'a parlé me montrant de la lire une heure chaque jour. Je l'ai commencé, je prends un temps d'exception en sa présence en lisant la Bible et même en la lisant plus d'une heure. Je m'arrête pour souligner ce qui me bouscule, je le note pour le méditer. Et moi qui aime tant lire, la merveilleuse parole de Dieu me donne des ailes. Je suis retraité, j'ai donc des temps libres. Et je rends grâce à Dieu pour ma retraite où je prends plus de temps dans la présence du Seigneur. Avant, je lisais la Bible en un an et maintenant, j'ai ce privilège de pouvoir la lire encore plus. J'aimerais juste ajouter un détail, c'est qu'auparavant, je n'arrivais pas à mémoriser des versets. Et en décembre dernier, le Seigneur a mis sur mon cœur de mémoriser certains versets que j'avais besoin de connaître. Alors j'ai dit, Seigneur, tu sais que je n'ai pas cette capacité de le faire. Et la réponse qu'il m'a donnée, c'est de lui faire confiance. Depuis début janvier, ce n'est pas moi qui choisis les versets ou les passages, il me les donne. Avec Dieu, nous ferons des exploits, gloire à Dieu. À 67 ans, il me donne une mémoire qui augmente au lieu de diminuer. Je suis une retraitée épanouie, une mamie heureuse. Merci du fond du cœur pour vos beaux enseignements qui me boostent. Gloire à Dieu et vraiment, je veux vous encourager aussi, vous qui m'écoutez dans votre communion avec la parole de Dieu, votre méditation de la parole de Dieu, à prendre du temps chaque jour dans la méditation, à lire la Bible chaque jour. Alors vous ne pourrez peut-être pas la lire une heure par jour, ou peut-être pas la lire deux heures par jour, mais vous pouvez la lire quelques minutes chaque jour. C'est important de se réveiller en écoutant la parole de Dieu, en la méditant, en la lisant. C'est vraiment, vraiment quelque chose d'important. Alors on est dans l'épître de Jean, les épîtres de Jean. Et hier on a été un peu dans le chapitre 1, chapitre 2. Aujourd'hui dans le chapitre 3, au verset 11, vous vous souvenez que hier j'ai commencé avec le message, je vais vous relire le verset. Donc Jean commence son épître et il arrive à un point comme un tournant, un point culminant de son épître. Il dit « Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. » Et il va dire que si nous marchons dans la lumière, eh bien il ne devrait pas avoir de ténèbres en nous. Nous sommes alors dans la lumière et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. J'ai donc expliqué hier assez rapidement que il y a une différence entre déjà demeurer, donc vivre dans le péché, et le fait de tomber dans le péché ou de pratiquer une fois le péché. Il y a ceux qui vivent dans le péché, qui demeurent dans le péché comme un état, c'est une situation de péché, et ces personnes, bien sûr, doivent se repentir et venir au Seigneur. Mais il y a ceux qui marchent avec Dieu, qui aiment le Seigneur et gardent, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Je le répète, ses commandements ne sont pas pénibles. Et à ce moment-là, ceux-ci qui sont des justes, justifiés, vont parfois pécher. Et l'apôtre Jean nous explique et nous dit tout cela pour que nous ne péchions pas. Mais il dit qu'à ceux qui ont péché, donc ceux qui sont justes et qui parfois vont tomber dans un péché, le Seigneur les relève et ils ont un avocat fidèle et juste, Jésus-Christ, qui est devenu une victime expiatoire. Ça veut dire qu'il a pris sur lui nos péchés. Et si nous remettons nos péchés maintenant physiques, ce qu'on a vécu réellement, alors à ce moment-là, ces péchés ont été pardonnés à travers la repentance et le pardon de nos péchés. Dans 1 Jean chapitre 3, Jean va nous parler de quelque chose de tellement important. Et quand on parle de péché, on ne pense pas souvent à cela. Et pourtant, il est écrit « Voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. » Et je vous rappelle que c'est le deuxième des plus grands commandements. Et avec celui d'aimer Dieu en premier, ils ne font qu'un. Aimer son prochain comme soi-même, c'est aussi aimer Dieu. Et quelqu'un qui aime Dieu va aimer son prochain. Et il dit, en précisant, il précise ici, ne faisons pas comme Caïn, qui était du malin et qui égorgea son frère. Et pourquoi l'égorgea-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde a de la haine pour vous. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Waouh ! C'est fou ! Des fois, on pose la question aux gens, mais comment vous savez que vous êtes sauvés ? Comment vous pouvez savoir que vous êtes sauvés ? Eh bien, la Bible dit ici que nous pouvons le savoir à cause de l'amour que nous avons pour nos frères, donc pour l'Église. Et il dit, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier, à moins qu'il ne se soit repenti, bien sûr, n'a la vie éternelle demeurant en lui. À ceci, nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Voilà l'amour de Dieu qui s'est manifesté pour nous et nous devrions retransmettre cet amour. Alors, quel est l'esprit de Caïn ? On va parler de l'esprit de Caïn. J'essaierai de revenir sur ce passage tout à l'heure. Dans Genèse au chapitre 4, je vais lire rapidement ce passage. L'homme connut Ève, sa femme, elle devint enceinte et accoucha de Caïn. Elle dit, j'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle accoucha encore de son frère Abel. Abel devint berger de petit bétail et Caïn, cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. C'était son métier, donc il n'a pas été cherché très très loin. Il a fait comme il avait l'habitude de le faire, dans son élément habituel. Abel lui aussi apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. Et lui aussi, c'était quelque chose d'habituel, d'être avec le bétail et les bêtes, etc. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ?» C'est intéressant ici parce qu'on revoit ce qui s'est passé précédemment. Adam et Ève sont dans le jardin. Ils ont reçu une règle à suivre, une règle de vie. Vous pouvez manger de tout, profiter de tout, j'ai tout fait, j'ai tout créé pour votre bonheur. Il y a une seule chose que vous ne devez pas faire, que vous ne devez pas toucher, que vous ne devez pas goûter. C'est manger de ce fruit de l'arbre interdit. Et quand Ève puis Adam mangent de ce fruit, qu'ils se retrouvent nus et qu'ils se cachent, ils viennent de pécher et le Seigneur Jésus va à leur rencontre. Et ici, Caïn vient de faire quelque chose qu'on peut appeler un péché puisqu'il est passé à côté de la cible. Ça veut dire que Dieu avait une façon avec laquelle on pouvait s'approcher de lui. Certainement, ils connaissaient l'histoire de leur père, Adam et Ève. Ils savaient que c'était par le sang. Et il est évident que Dieu avait parlé sur le sang et avait adressé à Adam et Ève un enseignement sur le sang. Et Caïn est irrité, son visage est abattu, il a manqué la cible, il a péché, et Dieu vient lui parler. Alors on peut pécher, qu'est-ce qui se passe quand on pêche? Frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe quand on pêche? Le Saint-Esprit vient tout de suite pour nous parler, pour nous relever. Son but, ce n'est pas, de nous écraser, son but, c'est de nous relever. Frères et sœurs, il ne veut pas qu'on tombe plus bas. Il ne veut pas qu'on reste par terre. Il veut nous relever. Le Seigneur est pour nous. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur, et je disais cela quelqu'un cette semaine, il y a quelques jours, Dieu veut encore plus que nous notre propre bonheur. Il nous a créés pour être sa joie et pour être heureux. Il dit d'ailleurs sans cesse ou régulièrement, heureux ceux qui suivent la parole de Dieu, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, heureux ceux qui marchent avec Dieu, heureux, 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 heureux. La joie est pour ceux qui marchent avec Dieu. La joie est pour ceux qui lui obéissent. Alors, c'est intéressant, donc, Dieu vient parler à Caïn alors qu'il a péché. Et quand on pêche, tout de suite, aussitôt, le Saint-Esprit vient pour nous parler. Il lui dit, si tu agis bien, tu relèveras la tête, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et les désirs de péché se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Oui, frères et sœurs, on peut dominer sur le péché. On n'est pas obligé d'être écrasé ou d'être esclave du péché, parce que celui qui marche en Dieu a crucifié les péchés, la chair, avec ses passions et ses désirs. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, et comme ils étaient dans les champs, en fait, les anciennes traductions rajoutent ici que Caïn a dit à son frère, « Allons ensemble dans les champs », et ils y allèrent. Alors maintenant qu'ils étaient dans les champs, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» C'est fou. Le Seigneur vient une deuxième fois. Alors j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, arrête de croire que parce que tu as péché, le Seigneur s'éloigne de toi. Arrête de croire que parce que tu as péché, le Seigneur ne t'aime plus ou le Seigneur est contre toi. J'aimerais dire à quelqu'un qui croit qu'il a trop péché que tu n'as pas trop péché encore. Christ est mort à la croix pour tous tes péchés. Il n'y en a pas un qui l'a mis derrière. Pas 10, pas 100, pas 1000. Jésus, ce qu'il a fait à la croix, était suffisant. Il a tout porté sur lui. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas où en est ta relation avec Dieu, où en est ton intimité avec Dieu, et on va en parler de plus en plus au cours de cette semaine. Mais j'aimerais te dire que Dieu a quelque chose de mieux en réserve pour toi. Dieu veut que tu vives des choses profondes avec sa présence, où tu n'es pas accablé, où tu n'es pas sous un fardeau religieux, où tu n'en fais jamais assez, où il y a toujours un péché qui est quelque part caché en toi. Non, le Seigneur veut que tu sois libre. Frères et sœurs, vous croyez que les 12 disciples, quand ils étaient avec Jésus, ils ne péchaient pas? Vous croyez que Judas, avant d'avoir livré Jésus, il n'avait pas péché? Vous croyez que ces gens qui étaient des pécheurs et qui étaient avec Jésus, est-ce qu'ils sont devenus parfaits sans aucun péché pendant 3 ans et demi? À ce moment-là, ils auraient quasiment presque pu être crucifiés aux côtés de Jésus. Non, ils péchaient. Est-ce qu'on voit une seule fois dans la parole Jésus les prendre et les corriger amèrement, les corriger avec violence? Est-ce que Jésus, comme les pharisiens qui se cachaient derrière les blés et qui, au moment où un disciple a pris un blé, des blés pour manger un peu, et que tout à coup ils sont apparus pour les accuser, est-ce que Jésus faisait ça? Est-ce que Jésus attendait un moment le soir quand ils étaient peut-être dans des tentes ou quand ils étaient peut-être dans une auberge quelconque alors qu'ils voyageaient de village en village parce qu'il fallait bien qu'ils dorment quelque part? Est-ce que Jésus attendait le moment où peut-être l'un des disciples allait pécher loin de sa femme et tout à coup dire « Ah, tu as péché !» Pas du tout. On voit Jésus plein d'amour. On voit Jésus, on amène une femme adultère. On l'amène à ses pieds. Qu'est-ce que fait Jésus? Il écrit sur le sol. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va rendre justice à cette femme. Comment il peut rendre justice à une femme pécheresse? C'est qu'il est lui-même justice. Jésus-Christ est devenu notre justice. Jésus a été fait justice. Il est notre justice. Tous nos péchés sont venus sur lui. Alors aujourd'hui, tu es peut-être comme cette femme adultère. Peut-être tu dis j'ai trop péché et peut-être que le diable est en train de te traîner comme on a traîné cette femme, peut-être qu'on l'a traîné par ses cheveux, il est peut-être en train de te traîner comme ça, plein d'accusations, en te disant tu as trop péché, et là on essaie de t'approcher de Jésus mais toi tu as peur parce que tu dis mais si on m'approche de Jésus, Jésus va me condamner. Et c'est pour ça quand tu as péché et que Satan essaie de t'amener à Jésus quelque part pour que tu te sentes condamné, toi, tu as envie de fuir loin de Jésus. Et c'est ce qui se passe, et c'est terrible. On s'éloigne du seul qui peut nous sauver quand on pêche et quand on commence à vivre dans le péché. On est en train de s'éloigner de celui qui peut nous sauver, de celui qui porte la vie, de celui qui est la vie, de celui qui est pour nous. L'accusateur des frères, il est contre nous. C'est l'accusateur contre les frères. Mais Dieu est pour nous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors peut-être que le diable t'a traîné par les cheveux dans ton péché pour comme te présenter à Jésus en te disant « Oh, quand tu vas arriver vers Jésus, oh, si tu reviens à Jésus, oh, si tu retournes à l'église, tu ne peux pas prier parce que tu as péché. Tu ne peux pas méditer la parole parce que Dieu a un problème avec toi. C'était ce que les pharisiens pensaient faire. Ils s'imaginaient que Jésus allait prendre une pierre parce qu'il allait être, comme on dit au Québec, mal pris. Il allait être là et pas avoir d'autre solution que de pratiquer la loi, de prendre une pierre et de tuer cette femme. Ah, il se serait réjoui. Mais il n'a pas du tout agi ainsi. Il a dit, mais lequel d'entre vous n'a jamais péché? Et vous savez, frères et sœurs, on est souvent tellement plus dur avec les autres qu'avec nous-mêmes. Il y a tellement d'occasions où on porte un jugement sur nos frères et sur nos sœurs, alors qu'on a fait pire, ou alors qu'on a fait pareil. Il y a tellement d'occasions qui arrivent dans la vie où on va critiquer les autres parce qu'ils ont fait ceci, parce qu'ils ont fait cela, mais il y a une semaine, on a fait la même chose. L'amour pour les frères, c'est savoir pardonner. L'amour pour les frères, c'est savoir croire le meilleur. L'amour pour les frères, c'est savoir se mettre à leur place. L'amour pour les frères, c'est savoir aller auprès d'eux et les aider à se relever. L'amour pour les frères, c'est se porter comme un ange intercesseur, priant pour eux, afin que Dieu les ramène. On en parlera vendredi. L'amour pour les frères, c'est se mettre à la place du frère et penser, comment pourrais-je l'aider? L'amour pour les frères, c'est le pardon. Qu'a-t-il dit à cette femme, alors que tous sont partis, accusés par la loi, accusés par leur péché? Femme, où sont tes accusateurs? Maintenant, va et ne pêche plus. Quand Jésus l'a pardonné ainsi, quand Jésus l'a laissé aller ainsi, cette femme s'est attachée au ministère de Jésus. Parce que à celui qu'on a beaucoup pardonné, aime beaucoup. Mais celui qu'on accuse, il n'aime pas. Il se sent sale, il se sent souillé, il se sent mauvais. Va et ne pêche plus. Elle était tellement heureuse. On m'a sauvé la vie. On m'a sauvé la vie. J'avais péché. Les pharisiens étaient prêts à me tuer. On m'a sauvé la vie. Que pensez-vous qu'elle a fait? Elle s'est sanctifiée. Elle s'est dit, je ne peux plus vivre une vie comme ça. Ce Jésus est merveilleux. Ce Jésus est le Fils de Dieu. Ce Jésus est le Sauveur. Et elle s'est approchée de Jésus. Jacques dira, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Pour vous aujourd'hui, ce n'est pas le temps de vous accuser, de vous écraser, de vous dire que vous avez trop péché. C'est le temps pour vous de vous réjouir en Dieu, de le louer, de l'adorer avec un cœur repentant. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un esprit brisé et contrit. C'est quoi avoir un esprit contrit? C'est un esprit qui sait qu'il a mal agi. C'est un esprit qui est humble. C'est un esprit qui se sent mal d'avoir péché. C'est un esprit brisé, c'est un esprit comme celui d'un enfant qui vient simplement auprès du Père pour être pardonné. Maintenant, un autre point. L'Éternel donc dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère, moi ?» Alors Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie du sol jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit, loin du sol qui a ouvert sa bouche, pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Et Dieu continue. L'esprit de Caïn, qu'est-ce que c'est cet esprit de Caïn? Caïn savait très bien où était son frère. Il avait tué son frère. Dieu lui avait clairement parlé, et pourtant il l'a tué. Et quand Dieu lui parle, comme Ève, qui savait, il ment. Et il va même plus que mentir. Il va s'opposer à Dieu, mais suis-je le gardien de mon frère? Quelle insolence dans l'esprit! Quelle arrogance! Quel orgueil! On retrouve cet esprit dans le livre de Jude. Jude va en parler. Il dit au verset 11, « Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. C'est dans l'égarement de Balaam que pour un salaire ils se sont jetés, et c'est par la révolte de Corée, les fils de Corée qui se sont révoltés contre Moïse, qu'ils ont péri. » Il y a vraiment un esprit, c'est l'esprit de Caïn. L'esprit de Caïn, j'aimerais, et je crois que ceux qui m'écoutent aujourd'hui, ce n'est pas votre esprit. Je crois que la plupart de ceux qui m'écoutent ont l'esprit de Dieu. L'esprit de Caïn n'a pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Caïn, c'est cet esprit qui conteste. C'est cet esprit orgueilleux, blasphématoire, qui refuse de se repentir. En fait, comment on peut discerner l'esprit, quelqu'un qui a l'esprit de Dieu et quelqu'un qui ne l'a pas ? C'est que quand quelqu'un qui a l'esprit de Dieu a péché et que Dieu lui parle avec clarté, cette personne veut se repentir. Je ne dis pas qu'elle se repent, elle veut se repentir. Il va peut-être avoir un certain temps, une certaine durée de temps entre le moment où elle va vraiment se repentir et le moment où le Seigneur lui a parlé. Mais elle va se repentir. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu, qui vit dans l'esprit de Caïn, quand cette personne entend, quand Dieu lui parle clairement par rapport à son péché, elle refuse de se repentir et elle ferme son cœur et elle méprise Dieu au point de détourner son regard de tout ce qui vient du Seigneur. Maintenant, faites la différence entre ce qu'on appelle parfois des chrétiens rétrogrades, des chrétiens qui sont tombés, des chrétiens qui ont chuté. Si c'est vous aujourd'hui, vous êtes éloigné du Seigneur, le Seigneur veut que vous puissiez revenir à lui, simplement tel que vous êtes. Et j'aimerais faire une parenthèse ici, toujours par rapport à Caïn, j'ai dit que je reviendrai dans 1 Jean chapitre 1. Jean a dit, « Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Et il dit aussi, « Nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde, qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous apaiserons notre cœur devant lui. » C'est un point ici qui est vraiment important. L'apôtre Jean dit qu'en fait, si nous aimons Dieu sincèrement, réellement, on ne va pas l'aimer seulement en paroles, mais ces paroles, ça va devenir des actions. Et c'est là qu'on va voir que nous sommes dans la vérité. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as de l'argent et que tu as des frères autour de toi qui sont dans le besoin, alors que le Saint-Esprit t'a parlé quelque part, au fond de ton cœur peut-être, pour eux, ne ferme pas ton cœur, mais fais-leur du bien avec ce que Dieu t'a donné. Il faut qu'on puisse aimer Dieu, et aimer Dieu, c'est aimer nos frères. Alors je voudrais faire un appel aujourd'hui pour ceux qui m'écoutent. Il y a quelqu'un qui a de la haine pour un frère. C'est peut-être profondément caché en toi. Peut-être tu ne veux pas l'avouer, mais tu as de la haine à quelqu'un que tu détestes. Il faut que tu pardonnes. Il faut absolument que tu pardonnes. Tu dois pardonner. C'est le moment de pardonner. Saint-Esprit. 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 Vous savez, quand on s'approche de lui, on a forcément envie de goûter à sa sainteté. Au nom de Jésus-Christ, je viens briser tout joug satanique, toute influence satanique sur vous. Tout joug qui vient vous oppresser, toute pensée mensongère qui vous dit constamment que vous n'avez pas assez prié, que vous n'avez pas assez fait ceci, qu'il y a peut-être au fond quelque part un péché quelque part, que vous n'êtes jamais saint, que vous n'êtes jamais juste. La Bible dit que vous avez été sanctifié, vous avez été purifié. Et si quelqu'un a un péché, il a un avocat. Si tu as péché aujourd'hui, tu as suivi la voie de Caïn, tu as refusé d'avouer, et tu refuses d'avouer, et tu as gardé dans ton cœur de l'amertume, de la colère, de la haine, ou ça peut être aussi autre chose. Tu gardes dans ta vie ce péché, et tu refuses de l'avouer, et tu t'es endurci, et tu t'es opposé à l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, dans ce temps de prière, repens-toi. Demande-lui sincèrement pardon. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, pardonne-moi. Avec tes mots là où tu es, demande-lui sincèrement pardon. Et si ta vie est juste devant lui, sois reconnaissant. Dis-lui merci. Je veux m'approcher de toi. Je veux vivre plus. Aimer plus mes frères. Aimer plus. Aide-moi à aimer plus. À aimer, non pas seulement en paroles, mais d'une manière concrète. Montre-moi comment je peux aimer aujourd'hui. Montre-moi comment je peux aimer les gens que je vais rencontrer. Il y a peut-être un rendez-vous. Les personnes que je sais déjà que je vais voir, comment je peux les aimer. D'une façon concrète, avec des actions concrètes. Là, tu es mon frère, ma sœur, demande-lui, Saint-Esprit, quelles sont les actions que tu veux que je pose pour aimer, pour t'aimer et pour aimer les frères, pour aimer les perdus, pour aimer ma famille, pour aimer mes enfants, pour aimer mon épouse, pour aimer mes parents. Quelles sont les actions pour aimer ceux qui me portent ta parole, ceux qui m'enseignent? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je crois que le Saint-Esprit va vous parler. Et je veux vraiment vous encourager. Plusieurs, vous avez déjà reçu des choses. Notez-les. Écrivez-les. Et faites-le. Et pendant les minutes à venir, certains, vous allez au travail, d'autres, vous êtes en train de cuisiner, d'autres, en train de marcher ou dans le métro ou peu importe. Continuez à demander au Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et notez-le. Je vous bénis au nom de Jésus.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Vous pouvez nous envoyer vos sujets de prière et vos témoignages à prière@enseignemoi.com. Retrouvez toutes les émissions de Prière Inspirée sur emcitv.com.